même position, prions le Seigneur. Je voudrais que tu parles à ton Dieu, que tu te présentes à ton Dieu. Toi enfant, toi célibataire, toi marié, parle à ton Dieu. Pour ce séminaire sur la famille, tu as sûrement des objectifs à atteindre dans ta vie, dans la vie de ton conjoint, dans celle de ta conjointe, et même dans la vie de tes enfants.
Elle éclaire mon chemin. Ta parole est une lumière sur ma destinée. Elle éclaire mes voies, me donne de l'intelligence, me restaure et vive.
Le Dieu que nous servons est un Dieu qui désire ta communication, qui désire échanger avec toi, partager avec toi. Dis-lui quelque chose du fond de ton cœur, sans complaisance, sans hypocrisie. Sois vrai, parce qu'il te connaît jusqu'au tréfonds de toi-même. Reconnais ta misère devant le Seigneur et déchire ton cœur. Reconnais tes limites devant le Seigneur. Et choisis de bâtir une famille selon son cœur. Choisis de bâtir un couple selon son standard. Choisis d'être la référence, la différence qui fait la référence. Choisis l'unité dans ton couple, quel que soit le prix qu'il faut payer. Choisis la complémentarité mutuelle, quel que soit le prix qu'il faut payer. Choisis de laisser une sainte descendance physique et spirituelle, quel que soit le prix qu'il faut payer. Le Seigneur voudra encore te parler cet après-midi. Il veut m'utiliser juste comme un objet, comme un instrument. Et je m'y rends. Et je dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi comme un objet, un instrument efficace entre tes mains pour la transformation de la vie de ce couple, des couples de cette famille, de cette église, de cette communauté, pour la transformation des vies des enfants, pour la régénération des enfants, pour la maturité des enfants. Pour que des familles selon ton cœur émergent et que la flamme du Saint-Esprit que tu allumes dans les cœurs, dans les couples et dans les familles produise le fruit qui demeure. Seigneur, donne toi-même cet enseignement et reçois-le dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé du projet de Dieu pour les familles, pour les couples et pour les célibataires. Cet après-midi, nous allons mettre un accent particulier sur les obstacles qui empêchent la réalisation du projet de Dieu, que ce soit dans la vie des célibataires, dans la vie des couples ou dans la vie des familles. Je vais commencer par dire trois choses essentielles. Trois choses essentielles. La première, c'est la suivante. Le succès de l'un sans l'autre dans un couple est l'échec de tout le couple. Je reprends. Le succès de l'un sans l'autre est l'échec de tout le couple. Si tu crois que tu as réussi tout seul, si tu crois qu'en tant que femme tu as réussi en dépit de ton mari, c'est l'échec du couple. Si tu crois en tant qu'homme que tu as réussi sans femme, c'est l'échec de tout le couple. Lorsque le Seigneur nous a unis, on ne peut plus réussir seul. soit on échoue à deux, soit on réussit à deux. Adam avait compris ça.
Ta parole est une lumière sur ma destinée.
Quand Ève a mangé le fruit, il n'a même plus hésité. Parce qu'il savait que les tomates étaient déjà cuites depuis longtemps. Le succès de l'un sans l'autre, c'est l'échec de tout l'autre. Ça, c'est la première chose que je prête. La deuxième chose, l'amour au sein d'un couple est sacrificiel. L'amour au sein d'un couple est sacrificiel. On n'aime pas parce que, mais on aime malgré. On aime en dépit de. On aime malgré les faiblesses. C'est curieux parce que beaucoup parlent de l'amour, beaucoup parlent de couple, mais ils n'ont jamais fait de sacrifice. Je me suis parfois amusée à demander au couple que j'en cadre, qu'est-ce que tu as déjà posé comme action sacrificielle, toi, homme, à l'endroit de ta femme? Ou alors, femme, qu'est-ce que tu as posé comme action sacrificielle à l'endroit de ton? Et vous dites que vous êtes mariés. Dieu est amour. Et l'amour est une nature. On ne naît pas amoureux, mais l'amour s'acquiert au travers de la nature de Dieu. Tu épouses Dieu, tu épouses l'amour, tu épouses sa nature. On ne fait pas d'effort pour aimer. Romains 5:5. Le Saint-Esprit lui-même répand l'amour dans notre cœur. Même s'il faut poser des actions pour démontrer l'amour par la suite, c'est en guise de réponse à l'amour sacrificiel de Dieu qui aime au point de donner son unique fils à la croix. Troisième chose que je voulais dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans un couple, le sacrifice qu'il faut faire, les efforts qu'il faut conjuguer ne sont jamais les mêmes dans tous les deux côtés. Jamais. Il y a toujours au sein d'un couple une personne qui doit se sacrifier un peu plus que l'autre. Et si vous êtes la personne qui doit payer ce prix, soyez béni. Parce que plus vous comprenez le désir de vous sacrifier, mieux vous êtes béni au nom de Jésus. Amen. C'est fondamental. Je ne comprends pas pourquoi les gens pleurent, se plaignent. Je souffre beaucoup dans mon couple. Est-ce qu'on devrait donc se plaindre? Est-ce qu'on devrait se plaindre? Si on souffre pour la cause de Christ, est-ce qu'on devrait se plaindre? On ne devrait pas se plaindre. Donc les trois principes étaient clairs. Un, qui peut rappeler encore les principes? Pardon? Oui, le succès de l'un sans l'autre est l'échec de tout le couple. Deuxième élément. L'amour au sein d'un couple est sacrificiel. Très bien. Troisième élément. Très bien. Je vais bagarrer à la maison parce que je donne toujours. Et l'autre reçoit toujours. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de couples s'auto-détruisent à cause d'un problème fondamental. Un problème fondamental. Le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. Christ n'est plus au centre des couples. Christ n'est plus au centre des familles. Parfois il est à côté. Parfois il est juste devant. Parfois il est un peu en arrière. Mais Christ n'est plus au centre de la vie, au sein des couples. Quand vous lisez Jérémie 12, Jérémie verset 13, il dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. C'est ce qui se passe dans nos maisons, c'est ce qui se passe dans nos familles, c'est ce qui se passe dans nos couples. Nous avons rejeté Dieu. Nous ne lui avons pas donné la première place, ou alors toute la place qu'il mérite. Un double péché. D'abord abandonner Dieu, qui est grave, et ensuite s'appuyer sur des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. On dirait qu'on va chercher de l'eau avec un panier et on veut remplir le puits. C'est la situation de nos couples, c'est la situation de nos familles. Mais sur quoi ou sur qui t'appuies-tu pour vivre ta vie de couple ou ta vie de famille? Tu comptes sur ta sagesse, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur tes diplômes, tu comptes sur ton background, tu comptes sur tes parents, tu comptes sur ta richesse. Mais plus grave encore, c'est que tu ne te rends pas compte que tout ce que je viens de citer là constitue ce qu'on appelle des citernes crevassées. Ce sont des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Même si tu crois réussir, c'est un succès illusoire. Un succès illusoire et éphémère. C'est une apparence. Elle est trompeuse. Elle est éphémère. Elle est superficielle. Elle est surfaciale. Et elle manque de la profondeur. Vous êtes en train de bâtir sur du sable mouvant et non pas sur le roc.
Ta parole est puissante et vivante. Elle est un marteau qui brise le roc.
Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive. Mais si tu veux réussir dans ta vie de couple, arrête tes faux raisonnements.
Enseigne-moi, Seigneur, ta parole.
Et retourne à la source d'eau vive, qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence.
Dans Jean 4, à partir du verset 14, Jésus dit à la femme samaritaine que si tu crois en moi, les sources d'eau vive jailliront en ton sein jusque dans l'éternité. Tu veux bâtir un couple heureux. Ne compte pas sur tes forces. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas t'essouffler. Retourne à la source d'eau et abreuve-toi. Laquelle source va jaillir jusque dans l'éternité. Et porte le fruit qui est digne de la source qui t'abreuve. Tu ne peux pas dire être de Jésus et porter les fruits qui ne sont pas de lui. Et c'est paradoxal de voir que la plupart de ceux qui disent être chrétiens sont incapables d'aimer de l'amour divin, de pardonner du pardon divin. Où est votre chrétienté? Où est votre chrétienté? Toute la Bible est fondée sur l'amour. L'Ancien comme le Nouveau Testament. L'amour est le centre de la vie conjugale. Je parle d'un amour mystérieux. Je parle d'un amour parfait. Je parle d'un amour agapé. Je parle d'un amour sans condition. Je parle de l'amour qui ne périt jamais, qui ne soupçonne pas le mal. C'est de cet amour-là qu'il est question. Retourne à la source d'eau vive et abreuve-toi. C'est gratuit. Abreuve-toi. Toi, époux, abreuve-toi. Toi, épouse, abreuve-toi. Toi, enfant, abreuve-toi cette source-là. Sinon, tu ne t'en sors pas. Quels que soient les efforts que tu vas conjuguer, tu ne réussiras pas. Quand tu vas t'abreuver à la source d'eau vive, ce ne sera pas encore la fin. Je dis souvent au couple que la source peut abreuver un mari tout seul. La source peut abreuver la femme toute seule. Mais la source ne peut pas abreuver tout le couple. Vous ne pouvez pas vous désaltérer sans vous déshydrater. Tu as besoin de passer de la source d'eau vive que tu es pour devenir un fleuve. Ça, c'est Jean 7, verset 38. Où cette fois-ci, Jésus dit, les fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Si tu n'es qu'une source, tu ne pourras pas abreuver ta femme. Tu ne pourras pas abreuver ton mari. Et encore moins tes enfants. Sans te déshydrater. Sans te plaindre. Sans être toi-même dans le besoin. Donc le véritable problème des couples aujourd'hui, c'est qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté la source d'eau vive pour se créer des citernes crevassées. Des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir. Qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Quelle est donc la conséquence? La mauvaise communication ou l'absence de communication. Voilà la première difficulté, voilà un obstacle. Les couples sont ensemble, mais ils ne communiquent pas. Vous êtes dans une même maison, vous ne parlez pas. Alors que vous êtes quoi? Une grande ressource pour Dieu. Étant déjà Dieu, vous êtes une grosse ressource pour l'Éternel. Mais vous ne faites pas bon usage de cette ressource-là. Les couples ne communiquent pas bien. Il y a des malentendus, il y a des quiproquos, il y a des soupçons. Après, tu as dit une chose, on t'aide à compléter la phrase. Et parfois, on parle trop, mais pour ne rien, ça ne sert à rien. Tu as trop parlé, mais qu'est-ce que tu as donc? Rien dit. Et pourquoi il y a trois principes fondamentaux qui régulent la communication au sein d'un couple. Trois. Le premier principe, c'est le principe de la retenue verbale. Retenir. Pouvoir se taire. Ton mari peut parler, tu te tais. Je sais que généralement dans les maisons, quand le père a dit un, la mère a dit trois. Sans faire d'effort. C'est comme ça. Vrai ou vrai, les femmes? Vrai ou vrai? Oui! Mais la Bible, dans Proverbe, dit qu'il vaut mieux vivre à l'ombre d'un toit et il pleut sur toi que de vivre dans une maison avec une femme. C'est ça! Donc, le premier principe de la gestion de la bonne communication au sein d'un couple, c'est ce qu'on appelle la retenue verbale. Tu n'es pas obligé de parler. Apprends à écouter. C'est même le premier niveau de la communication. Le premier niveau de la communication, c'est écouter. Ce n'est pas parler. Malheureusement, dans le couple, nous sommes presque tous de mauvais auditeurs. Et tu peux faire 10 ans, 15 ans avec ton mari, tu ne le connais pas. Avec ta femme, tu ne la connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps juste de l'écouter. En étant concentré sur ce qu'il dit, en étant focalisé sur ce qu'il dit, en priant pour comprendre ce qu'il dit, en priant pour saisir le tréfonds et la profondeur de ce qu'il veut communiquer. Vous êtes dans une maison à deux, mais comme des étrangers. Parce que personne n'est disposé à écouter. Parfois tu écoutes en zappant. Parfois tu écoutes en faisant autre chose. Parfois, tu écoutes avec un cœur lourd qui ne te permet pas d'intégrer ce que l'autre dit. Parfois, tu écoutes avec beaucoup de préjugés qui te bloquent et qui t'empêchent de saisir qui est l'autre. La retenue verbale, elle est fondamentale. Il m'a fallu près de 7 bonnes années pour que j'apprenne à me retenir sur le plan verbal. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis enseignante. Et ensuite, je suis littéraire. Je ne suis même pas une simple littéraire, je suis extrême littéraire. Vous voyez un peu, donc, c'était pas évident. Quand moi, je vois, je dois parler. Je dois dire, je dois donner mon avis. Et je dois critiquer un peu. Pour donner la thèse, l'antithèse et même la synthèse. Ça ne paye pas, ça ne paye pas. Ça ne paye pas dans un mariage. J'avais toujours à dire et toujours à a redit. Vous voyez un peu? Et ça créait vraiment un genre de conflit là. Parce que le second niveau de la communication, c'est la gestion des conflits. La gestion des conflits. Mon mari, par contre, il a un élan très scientifique. En une phrase, il t'a tout dit ce qu'il veut te dire. Et du coup, on avait beaucoup de problèmes. Parce que quand on voulait résoudre un problème, moi je dis, il faut mettre le cahier. On va écrire. Et que le cahier vient faire quoi? Il faut écrire. Et j'étais formelle là-dessus. Et c'est seulement il faut écrire, mettre une introduction. Et au niveau de l'introduction, il faut que les trois parties d'une introduction classique y figurent. Il faut mettre le thème, il faut poser le problème et il faut annoncer le plan. Et à la conclusion, il faut lever le débat pour la prochaine rencontre de poser ici. Mon mari disait que ça, c'est trop, ça fait trop sérieux. Ça fait trop sérieux. Moi, ça m'effraie même. Et comme je disais, il m'a fallu 7 bonnes années pour me rajuster correctement. J'ai commencé à me faire évaluer par mon mari. Et quand il parlait, j'avais plus que le cahier. Il parlait, je note seulement. Pour me rassurer que je travaille l'écoute. Non, que je travaille l'écoute. Pendant que lui parle, moi je. En fait, elle dit, mais tu ne dis rien aujourd'hui. Parce qu'il était suffisant que celle qui parle souvent beaucoup là, elle n'a plus rien. Oui, ça se travaille. Et j'ai appris à noter, et à parler très peu. Et ça m'édifie. Parce que les gens du monde disent même que la parole est comment? La parole est d'argent, mais le silence est... Oui! C'est parfois important de se taire. Et surtout de se taire dans une attitude de quelqu'un qui prie, de quelqu'un qui intercède. Dis Seigneur, écoute mon mari là à ma place. Si c'est moi, je ne peux pas l'écouter. Moi, je vais m'irriter. L'amertume va m'envahir. Je ne vais pas pouvoir me maîtriser. Quand il va dire une chose là, je vais chercher à corriger, à arranger, à redresser. Seigneur, écoute, écoute-le à ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc il est très important de s'engager dans le couple à communiquer. Beaucoup de couples ne veulent même pas communiquer. Ils pratiquent ce qu'on appelle l'évitement. On sait qu'il y a eu une sorte de situation de crise. Chacun est de son côté. On préfère se taire. C'est un problème. Il faut s'engager à communiquer et à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Deuxième chose, il faut que l'offenseur demande pardon à l'autre et que l'offensé accorde le pardon. Parce qu'on est dans une situation où parfois le mari veut demander pardon, mais la femme n'est pas disposée à lui accorder son... En ce moment, le notre Père n'a plus de valeur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Le pardon est fondamental. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes... Ne pardonnez pas. Le pardon et l'amour riment ensemble. Le pardon et l'amour marchent ensemble. Si tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'aimes pas. Et combien de fois est-ce que tu dois pardonner? C'est toute la vie. Hein? Tu ne veux pas entrer dans 70 fois quoi. C'est toute... Oui, c'est toute la vie. Il n'y a pas un temps où tu vas dire c'est trop. Que chaque chose a ses limites. Non. C'est toute. Oui, c'est toute la vie. Et c'est ça qui fait de toi un homme mature ou une femme mature. Tu dois pardonner toute la vie. Et j'ai parfois comme impression que les gens disent que non, je peux pardonner si, mais pas ça. Il n'y a pas de catégorisation dans le pardon. Il faut tout pardonner. Oui, même si ta femme tape sur toi, il faut pardonner ça. Même si ta femme te trompe avec ton ami intime, il faut pardonner ça. Je dis ça, les cœurs bouillonnent. Mais ton cœur bouillonne parce que tu n'expérimentes pas l'amour divin. Jésus pardonne à ses bourreaux à la croix. Quand il est sur la croix, il pardonne à ses... Pardonne-leur car ils ne savent pas. C'est ce qu'il faut dire à ton mari. C'est ce qu'il faut dire à ta femme. Tu crois que quand ton mari va chercher les femmes là, qui a un problème? Qui a un problème? Et qui peut l'aider à sortir de ce problème? Alors, pardonne alors. T'as pas de soucis. Le pardon doit être total. Il doit s'appliquer dans tous les histoires. J'ai beaucoup d'histoires dans ce sens. Dans mon encadrement des couples, je me suis rendu compte qu'il y avait une terre qui décimait vraiment l'ennemi. Et la tendance était que je peux tout pardonner sauf. Je veux dire que mais vous avez pris le verset biblique là. Quand on dit même qu'il faut écrire des lettres de divorce à vos femmes, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la dureté. Oui! Donc, du coup, quand je parle ici, je communique les principes bibliques. Maintenant, il est sage d'appliquer les principes. Et d'avoir une chair dans le cœur de Dieu que de rejeter le principe biblique et de tomber sous le coup de la colère de Dieu. J'ai rencontré une jeune femme avec qui je travaillais. Elle avait à peine 32 ans. Hein. Et. Elle était fatiguée de tromper son mari. Quand elle est venue me voir, ne criez pas beaucoup, c'est ce qui se passe dans nos maisons. Elle était fatiguée de tromper son mari. Et puis elle me dit, Tata Naomi, je l'ai épousé parce qu'il avait de l'argent. Il était enseignant d'université et puis moi je voulais sortir de la misère. Elle me dit, deux, Tata Naomi, je ne l'ai jamais aimé. Toi-même, regarde comment je suis belle. Regarde-le. Quoi? Elle me dit, tu sais, quand on s'est marié quelques temps après, il a fait un voyage de 6 mois à l'étranger. En fait, je continuais de sortir avec mon gars. Et je lui demande que tu veux dire quoi. Elle dit que je doute de la paternité de notre fils aîné. Je ne suis pas sûr qu'il est le père. Et donc, quand elle me rencontre, elle est au bord du précipice. Elle a tellement fait ce genre de choses. Et elle sortait avec les amis du monsieur. Et elle sortait avec les amis du couple. Et elle, et elle, et elle, et elle, et elle. Donc il fallait déjà la rassurer que Dieu pardonne tout. Et que Dieu le lui a pardonné. Si elle est prête à recommencer, n'est-ce pas? À repartir sur de nouvelles bases. Elle pouvait être guérie de ses blessures émotionnelles. Et elle était prête. On a fait un travail de fond et elle était prête. Mais le plus dur, c'est qu'il fallait qu'on apporte son âme. On a travaillé avec elle, on allait rencontrer son mari. Et on lui a dit clairement la vérité. C'était vraiment dur. C'était pas évident. Surtout qu'il connaissait ses adversaires, non? Il connaissait ses rivaux là. Il les connaissait bien. Et puis il me dit, Tata, non, je me suis dit de pardonner ça. Je pardonne tout, sauf l'autre là. Quelle sorte? Il a retrouvé ses parents. Il n'avait plus chez moi. Et nous, on savait que c'était sur le coup de l'émotion. Après, on a prié. Et on a aussi su ce qu'on a reçu de Dieu par rapport à lui. Avec le temps, il s'est calmé. Mais avant de se calmer, il a dit que je vais aussi voir juste pour qu'il puisse aussi résoudre ce genre de problème. Il a fabriqué une histoire. Il allait dire à mon mari que même capable de sortir avec son professeur, tu ne savais pas. Hein? En fait, dans son plan, c'était que quand vous me demandez de pardonner, c'est peut-être parce que vous n'avez jamais expérimenté ça. Je vais essayer de voir à quoi va ressembler la tête de ton mari quand on va lui dire que toi-même tu as osé le tromper. Vous voyez un peu? Et il est allé le voir quand il était en train de diriger une retraite spirituelle en paroisse. Et quand il finit en paroisse, il me dit, bon voici ce que j'ai dit à ton mari. Ne lui dis rien. Regarde seulement sa réaction et tout et tout. Bon, je lui dis que ce n'est pas un problème dans nous. Qui est adultère ou qui n'est pas adultère, ça, ce ne sera pas un problème. Déjà, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il n'y aura même jamais d'adultère. Il n'y aura jamais. C'est clair. Et donc, quand il est rentré de la retraite de jour, là, c'était un non-événement. C'était un non. Ça m'a beaucoup aidé. Il est reparti sur de nouvelles bases avec sa femme. Ils ont eu un troisième enfant, ça fait moins de 2 ans. Amen. Ils se sont réconciliés. La femme n'est jamais allée chez ses parents. il a pardonné. Les choses marchent beaucoup mieux au sein de son couple. Le pardon te libère. On libère ton conjoint. Il n'y a pas de péché qu'on ne peut pas pardonner. Il n'y a pas de faute qu'on ne peut pas. Je peux citer une panoplie d'exemples comme ça. Et vraiment, quand le pardon a surpassé la haine, la rancœur et tout ça, le couple s'est remis et les choses sont passées dans de bonnes. Oui! La mauvaise communication, l'absence de communication. Et la mauvaise communication est aussi dangereuse que l'absence de communication. Bien communiquer, c'est avoir un seul sujet à la fois, n'embrasser pas tout. Tu ne peux pas être là. Tu veux résoudre le problème de la rentrée scolaire avec ta femme. Et les femmes aiment ça. Elles commencent à dire que ma belle-mère là, ou ta mère là, elle m'avait fait ceci. Ta soeur là, elle m'avait fait cela. Finalement, ça prend tous les sens. Parce que vous communiquez mal. Soit il n'y a pas la communication du tout, soit la communication qui est présente est mauvaise. Parce que n'est pas fondée sur l'amour de Dieu. N'est pas fondée sur le pardon. Et c'est dangereux. C'est très dangereux comme ça. Il faut pardonner. Et pour véritablement pardonner, tu as besoin de mourir en toi-même. Pour prendre les forces de Christ. Pour développer la capacité de pardonner. Parlons d'un deuxième élément qui détruit le projet de Dieu pour les. C'est ce que j'appelle les difficultés insurmontables. Les difficultés insurmontables. Chaque couple rencontre des difficultés. Mais il y a des difficultés qui sont insurmontables. Comme moi, comme l'absence d'un enfant au sein d'un couple. On ne va pas aller acheter le bébé au marché. Comme l'absence de l'emploi. La femme ne travaille pas. L'homme ne travaille pas. On va faire. Oui, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc la particularité des difficultés insurmontables, c'est que ni la femme ni l'homme ne peuvent avec aisance trouver une solution. Et je dis souvent que il ne faut pas laisser que la difficulté devienne un problème. Et que le problème entraîne d'autres problèmes ou engendre d'autres problèmes. Tu peux avoir une difficulté, mais ne laisse pas la difficulté devenir un problème. J'ai parlé des difficultés insurmontables, je n'ai pas parlé des problèmes insurmontables. J'ai cité deux exemples de difficultés insurmontables. Donc le problème ne se situe pas au niveau de ce que nous avons une difficulté. Mais le problème se situe au niveau de quelle est l'attitude que j'ai devant la difficulté. Quelle est l'attitude que je développe devant la difficulté? Imaginez un temps soit peu un couple chrétien qui n'a pas d'enfant. C'est une difficulté. Elle est réelle. Mais quelle est l'attitude que j'ai devant cette situation-là? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que deux possibilités dans l'alternative. Soit je choisis que la difficulté me bâtisse et bâtisse le couple, soit je choisis que la difficulté me détruise et détruit le couple. Et que tu peux te morfondre parce que tu n'as pas d'enfant. Tu peux te morfondre parce que Dieu ne t'a pas béni avec un enfant au point de développer ce que les médecins appellent une stérilité secondaire. Moment tu te détruis et tu détruis le couple. Mais un autre couple peut choisir que cet état de choses fasse toi les bâtisse parce que tout ce qu'on vient de ceux qui aiment Dieu. Ils peuvent mieux s'éduquer, ils peuvent mieux évangéliser, ils peuvent mieux se déplacer, ils peuvent mieux investir et s'investir pour la cause du royaume. Parce que l'enfant dans un ménage, on manque de façon sensible le stress dans ce couple. Vrai ou faux? Oui. Tu ne dors plus à volonté. Tu ne travailles même plus à ton rythme. Parce qu'il faut intégrer le programme des enfants. Mais quelle est l'option que tu choisis? Que la difficulté te bâtisse ou que la difficulté te détruise? C'est à toi de décider. Est-ce qu'on comprend ça? Je vais prendre un autre exemple. La carotte fraîche à l'état naturel et l'œuf frais à l'état naturel. La carotte, elle est solide et l'œuf, lui, il est très fragile. Mais maintenant, lorsqu'on soumet et la carotte et l'œuf à l'épreuve de feu, c'est-à-dire que quand on prend les deux là et on met dans une marmite bouillante, qu'est-ce qui se passe à la fin? La carotte qui était solide dès le départ devient molle. Et l'œuf qui était fragile dès le départ devient... À toi de choisir d'être la carotte. Ou d'être l'œuf. On a compris ça. Si tu choisis d'être l'œuf, c'est qu'au départ tu es fragile à cause d'un problème, à cause d'une difficulté. Même lorsque tu passes par le feu, les difficultés t'ont poussé à te battre, à te torcher. L'épreuve produit quoi? La patience, la patience, la persévérance, la paix. Ton caractère est mieux bâti quand le Seigneur te fait passer par les difficultés, par les déserts, par les montagnes, par les collines. Il n'y a pas de meilleure école de vie que les difficultés. Aujourd'hui, dès que tu as une difficulté, tu fuis. Quand l'apôtre Paul avait une difficulté, il se glorifiait, il était content. D'accord? Heureux serez-vous, n'est-ce pas? Lorsque vous serez persécutés. Et même ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Quand vous lisez Actes 4, à partir du verset 29, quand les disciples étaient persécutés, ils disaient quoi? Oh, ça est étrange. Qu'est-ce qu'ils disaient à Dieu? Le Seigneur, vois leur menace. Vois leur menace. Et fais comment? Donne à tes disciples d'annoncer, à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. C'est de ça qu'on a besoin au sein de la famille. Ton mari t'a dépassé, mais il ne peut pas dépasser Dieu. Ta femme t'a dépassé, mais il ne peut pas dépasser Dieu. On te dit de gérer une comme ça, tu dis qu'elle est trop dure, qu'elle a les grandes idées, qu'elle est divergente. C'est quelle histoire? Dieu gère les divergences, non? Il en est de même. Et maintenant, si tu ne peux pas réussir de la maison, arrête même de travailler l'extérieur de la, parce que le succès c'est d'abord en famille, le succès c'est d'abord en couple avant d'entamer un quelconque succès hors de la maison et hors de la famille. Donc c'est très important de choisir d'être soit la carotte soit le... Il faut adopter la bonne attitude, mais moi je conseille d'adopter l'attitude qui te bâtit. L'attitude qui bâtit ton caractère, qui bâtit ton couple, l'attitude qui édifie tes enfants. Ouais, pendant que tu payes le prix, tes enfants t'observent. Pendant que tu payes le prix, Dieu te voit. Et il est le rémunérateur, il est le rémunérateur de ceux qui le... Il va te récompenser. Dans cette génération, ou même dans la génération de tes enfants, ne t'avoue jamais vaincu. Et l'un des conseils que je donne également au couple que j'encadre, c'est Romains 12, 21. Romains 12, 21. C'est le dernier verset de ce chapitre-là. Qui dit en fait qu'il faut toujours surmonter le mal par le... C'est clair. Si tu es de Dieu, d'où vient le mal en toi? Si tu es de Christ, d'où vient le mal en toi? D'où vient-il que tu médites le mal? D'où vient-il que tu médites des choses qui n'honorent pas Dieu? Toujours surmonter le mal par le bien, pas parfois, pas de temps en temps. Mais toujours, toujours, toujours. Les difficultés insurmontables sont là. Mais ne vous laissez pas renverser par ces difficultés. Elles sont là. Moi, j'ai un cas sous la main. Un couple qui se marie, ça fait 2 ans aujourd'hui, pasteur. Ils n'ont jamais consommé leur mariage. La fille s'est mariée vierge, il en est de même pour le garçon. Mais il n'y a jamais eu un acte sexuel réel au sens au premier du terme. Tu voulais te marier, non? Maintenant, tu es marié. On comprend. C'est ce qu'elle dit souvent aux célibataires. Pardon. Vous voulez que je détaille quoi là? Les difficultés sont là. Les difficultés insurmontables sont là. Mais comme nous le disions hier, il n'est pas question de regarder aux difficultés, mais de regarder à Dieu. Ce couple est très épanoui. Hein? Ils investissent énormément pour Christ. Et ils ont la ferme assurance qu'un jour, le Seigneur va apporter une solution à leur problème. Parce que les médecins qu'ils ont rencontrés n'ont pas pu apporter un élément de réponse jusqu'à présent. Mais l'acte sexuel entre les deux n'est pas possible. Et aucun n'est malade. Vous voyez, aucun des deux n'est malade. Ils sont biologiquement normaux. Il n'y a aucun problème. Il y a une anomalie. On comprend? Oui, ça peut arriver. C'est pour dire que parfois tu cries des problèmes là, tu ne sais même pas quels sont les problèmes qui existent dehors. Au lieu de jouir pleinement de ta femme ou de ton mari, toi tu te, vous voyez un peu, te distrais dehors. C'est possible. J'ai rencontré ce genre de situation, j'ai le cas sous la main, c'est là. Mais ce qui me manque, c'est la ferme assurance qu'ils ont. Que Tata Naomi, ça ira. Et nous ne voulons même pas de béquilles. Nous ne voulons pas d'autres appuis. Même les médecins, là, pour le moment, on ne les voit pas. Et nous avons la réponse de Dieu à notre solution, à notre problème. Amen. Oui. Voilà un cas patent. Un cas très patent. Ce n'est pas une histoire qu'ils se bagarrent. Non. La maison, le matin, c'est la louange. Le soir, c'est la louange. Et on rend grâce à Dieu. Difficulté insue. Oui. Il y en a. Peut-être dans ce cas-ci même, il y a même de l'espoir. Peut-être dans ce cas même, il y a de l'espoir. Moi, j'ai eu un autre cas. La fille ne parlait pas beaucoup pendant les fiançailles. Elle arrive dans le mariage. Hein? Il n'y a même pas de voix. Il n'y a même pas de voix pour l'intimité sexuelle. Vous comprenez ce que je dis, non? Ok. Donc le mariage n'est pas une fin en... Oui! Le mariage, c'est juste un moyen pour accomplir l'œuvre de... Dans le premier cas du couple dont je parle là, ils ne sont pas sexuellement actifs, mais ils servent pleinement le Seigneur. Ils servent pleinement le Seigneur lui-même. Prend soin. Il prend soin d'eux. Il y en a. Il en aura. Mais le Seigneur que nous servons est au-dessus des... Il est au-dessus des difficultés. Mon mari, lui, il a perdu le travail 2 semaines avant notre mariage. 2. On devait se marier, on ne devait plus se marier. C'est une difficulté, non? C'est une difficulté. À l'époque, j'étais sortie de l'école normale, mais mon salaire ne passait pas encore. Il fallait vivre. Hein? C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Surtout que la première fille arrive, je n'ai pas eu le premier salaire. Mais ce qui m'a beaucoup édifié, c'est que on a fait 7 ans dans cette situation. Ah oui, 7 ans. Mais ce qui m'a intéressé dans cette situation, c'est que le Seigneur nous a beaucoup édifié. Il nous a aidé à voir qui étaient même nos véritables amis. Vous voyez un peu? Vous voyez, quand j'accouche la première fille, je me dis que je commence même pas. Mais j'avais toujours ce dont j'avais. Et si on vous dit que ceux qui nous soutenaient le plus, c'était les moniteurs, le groupe dans lequel on appartenait à l'époque. Et moi, j'étais à mon âge, souvent mon mari, lui, il était à l'hôpital. Vous n'allez même pas quoi. C'est un miracle. Le meilleur investissement qu'on peut faire, hein, c'est dans les êtres humains. Investis dans ta femme. Investis dans ton mari. Vous comprenez ça? Si un homme porte son argent comme ça, il donne à sa femme, il va beaucoup payer pour sa femme. Là. Pour qu'elle soit sage, pour qu'elle gère bien, qu'elle vive longtemps. Non, vous voyez, c'est ça. Et les hommes ont d'avance, ils ont souvent peur de faire ce genre de choses parce qu'elle dépense beaucoup. Elle va aller faire manger petit pied avec tout ça. Et l'argent va tout finir. Et moi, j'ai dit un jour à un homme que.
Je dois renoncer à ma chair. Même si tu
t'as débarrassé de ce qui pouvait t'empêcher de voir le royaume des cieux. Le problème, c'est quoi si elle t'a vidé le compte bancaire?
Même si, Seigneur, je dois renoncer à ma chair. Même si tu dis, Seigneur,
non, elle gaspille trop, elle dépense trop, elle. Tu aurais pu réfléchir juste un peu avant le mariage. Une fois que tu es dedans, ne dis plus ça. Parce que quand tu parles mal d'elle, c'est de toi que tu parles mal. Parce que vous êtes devenue une seule. C'est ça. Et toi aussi, la femme là, même si ton mari à l'époque est mis, elle est mis comme le porc et puis tu l'embrasses, il y a une demi-pique avec. Que vous devenez une seule chair. S'il est détourneur de forme, toi-même tu es détourneuse de forme avec lui. S'il est voleur, toi-même tu es voleuse avec. C'est ça? Au nom de l'unité. Au nom de l'unité. On a vraiment besoin de se soutenir. De se soutenir. Moi je vois des gens faire comment? Se séparer quand il y a des difficultés. Mais le Seigneur nous a beaucoup baptisé. Et moi, j'étais convaincue que le Seigneur nous a utilisés comme ça pour qu'on aide aussi d'autres couples. En 2018, nous avons eu 25 personnes accompagnées au mariage. C'était déjà une école. Notre propre maison était déjà le centre de formation. C'était plus un centre de formation seulement pour nos enfants, mais aussi pour les autres. Mais je dis que notre société est en crise de modèle. On cherche un couple qui essaye seulement de mettre en pratique la parole. Les enfants la cherchent comme ça, avec les loups, ils n'en trouvent pas. Que les difficultés au sein de notre couple concourent à faire quoi? À nous bâtir, à bâtir notre caractère, à bâtir notre couple et à nous édifier. C'est fondamental. Les difficultés insurmontables. Et c'est l'occasion de dire que Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu. Parlons des activités extra-conjugales. Une activité dite extra-conjugale, lorsque je n'implique pas l'autre dans ce que je fais, les activités extra-conjugales détruisent nos couples à une vitesse exponentielle. Activité extra-conjugale. Pour joindre les deux bouts, il faut que la mère sorte, il faut que le père sorte. Et nos maisons sont vidées de leur contenu principal. Qui est le véritable bâtisseur de foyer? Qui est la mère? La mère! Nos maisons sont vidées de leur principal contenu, de leur bâtisseur principal. Qui est la mère? Au profit des activités extra-conjugales. Quand je parle d'activité conjugale, c'est quoi? Je vais dire ça en des termes très simples. Tu fais quelque chose sans impliquer ton mari ou sans impliquer ta femme. C'est ça qu'on appelle une activité extra-conjugale. L'activité extra-conjugale, là, peut être une liaison amoureuse. Ça peut être le trop plein de travail. Tu prends des heures supplémentaires au travail parce que tu ne veux pas rentrer voir ta femme à la maison. Ou tu ne veux pas rentrer voir ton mari à la maison. Au lieu de service, on croit que tu aimes trop le travail. Mais tu es seulement stressé, tu es seulement frustré. Vous voyez un peu? Et ta maison est devenue comme un enfer, comme une sorte de prison, comme une porte au cou. Quand tu penses seulement y retourner, vous voyez un peu. Surtout quand tu rentres, tard, ta femme se plaint. Tu rentres tôt, elle se plaint. Tu rentres tard, elle dit que ok. Donc tu es allé chez Shell là jusqu'à tu as oublié que toi aussi, on était à la maison. Tu rentres tôt et que tu n'es pas allé lui rentrer visite aujourd'hui. Tu manges beaucoup, on dit que ah, tu n'es pas passé par chez Mami Jacques avant d'arriver ici. Le jour où tu ne manges pas, on dit que vraiment, tu as tellement mangé là-bas que tu ne prends plus au sérieux ce qu'on a pris ici. Il y a des familles comme ça, où quand le mari pense seulement rentrer, vous voyez un peu, il a les sueurs froides. Et un jour, pendant qu'on réfléchissait à la radio sur les violences faites, on voit bien un homme qui a dit que non, ne parlait pas des violences faites aux femmes. Parler des violences faites. Oui, les femmes sont violentes. Vous comprenez? Un homme qui a bâti sa maison, mais qui ne peut pas rentrer chez lui en paix. Qui ne peut pas jouir de la tranquillité. Parce que tu vas le tirer dans tous les sens. C'est un problème. Donc nous devons faire très attention de ne pas impliquer l'autre, de ne pas impliquer la femme ou le mari dans ce que nous sommes en train de faire.
Même si c'est Dieu.
Parce que les tontines là, que tu gardes l'argent sous la sous le matelas, tu dors sur le. Et celui avec qui tu dors sur le matelas n'est pas au courant de ce qui est sous le.
Même si c'est Dieu,
c'est ça. L'activité extra-conjugale. Il y a des femmes qui prennent le risque d'aller acheter le terrain. C'est quand elles se rendent compte qu'on a vendu à deux personnes, qu'elles accomplissent. Activité extra, oui, l'activité extra conjugale, c'est parfois trop d'activité, tu fais trop d'activité, quel est l'état de leur maison, est-ce qu'ils prennent soin de leur âme, est-ce qu'ils prennent soin de leur, on te voit 6h18 à l'église, tu fais quoi, tu fais quoi? Même si tu es pasteur, tu fais. Si tu n'es pas déjà pasteur là-bas à la maison, ne viens pas essayer d'être pasteur. Oui! N'essaye pas! On est d'accord? Donc, l'activisme est une activité extra-conjugale. Tu veux noyer tes soucis dans l'activité? Tu veux noyer tes soucis en travaillant beaucoup. Ce qui compte pour Dieu n'est pas le travail que tu fais pour lui. Ce qui compte. Travailler mon caractère, me bâtir, m'édifier, édifier les autres. Dis-moi le nombre de temps que tu passes dans la prière, je te dirai qui tu es. Plus tu vas passer le temps dans la présence de Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Tu vas développer un caractère qui est propre à Dieu.